Le journal Anthony Mentendon.
Bonjour, les conditions seront à la hauteur de l'événement. Le FC Bienne se prépare pour son choc demain en demi-finale de la Coupe de Suisse de football. La réception de Young Boys permet au club, mais aussi à toute la ville, de rayonner loin à la ronde. 25 ans qu'il propose un espace créatif aux jeunes. Le X-Project à Bienne fête son quart de siècle cette année. Si à l'origine le combat politique était au centre de ses activités, ce militantisme s'est progressivement estompé, vous l'entendrez. Des messages à caractère raciste, homophobe et misogyne, le contenu de discussions sur WhatsApp de membres du Rassemblement Roman Patriote pourrait avoir des répercussions légales. Le candidat du nouveau parti d'extrême droite à l'élection de la préfecture de Bienne s'excuse aujourd'hui, explique ses propos. Les averses devraient cesser dans les prochaines heures, Météo News prévoit un retour du soleil dans toute la région et les températures, elles, grimperont au maximum jusqu'à 15 degrés. La fièvre monte autour de l'Atisso Arena. Le FC Bienne accueille l'équipe de Super League de Young Boys en demi-finale de la Coupe de Suisse de football demain. Coup d'envoi à 20h30. Les Célandais de Promotion League tenteront de créer un nouvel exploit après avoir sorti une autre formation de l'élite, Lugano, au tour précédent. Cette partie se jouera à guichet fermé. Une tribune supplémentaire de 800 places a même été érigée spécialement pour l'occasion et portera la capacité d'accueil à près de 6000 spectateurs. Et les billets sont partis comme des petits pains, comme le confirmait dans la matinale ce matin le président du FC Bienne, Dietmar Faes.
On n'a même pas eu l'occasion d'ouvrir une prélocation parce qu'il y a eu tellement de demandes. Et puis voilà, ces billets, c'était dans peu de temps et c'était tous vendus. C'est pour ça qu'on a encore installé des tribunes supplémentaires pour qu'on puisse encore recevoir 700 spectateurs en plus parce qu'on aimerait quand même offrir ce match. Voilà, la plus grande majorité de notre population. Mais malheureusement, voilà, le stade a une capacité limitée à ce moment-là. Maintenant, on arrive de 5200 à 6000 spectateurs. Je pense que c'est quand même pas trop mal. Mais en fait, on aurait pu vendre 15 000 billets sans autre.
On imagine, en termes d'organisation, que ça a dû être un gros défi.
On a déjà un peu l'habitude. Ce n'est pas la première fois qu'on reçoit un pensionnaire de la Super League. C'était à peu près pareil comme contre Lugano. Mais évidemment, maintenant, pour cette fois, il y a beaucoup plus d'importance médiatique. Avant-hier, il y avait 3 stations télé qui étaient sur place. Il y a en permanence des journalistes, des médias qui s'intéressent pour le club. Quasiment toutes les minutes, mon iPhone sonne, il y a des gens qui posent des questions. Tout le monde veut assister à ce match. On trouve que c'est un peu dommage. On trouve aussi des billets sur le marché noir. Alors bon, après, on se dit quand même, c'est incroyable qu'on arrive à ce stade-là, qu'il y a des billets qui sont vendus à 500 francs. Voilà, ça montre aussi un peu voilà, l'engouement que le FC Bienne a pu créer dans le peu de temps. Et pour ça, voilà, ça nous fait beaucoup de plaisir.
Et Bienne a franchi les demi-finales de la Coupe à une seule reprise. C'était en 1961 avant de s'incliner en finale contre La Chaux-de-Fonds. Ce duel contre le rival cantonal de Berne provoque l'euphorie dans la région. Une belle vitrine pour le sport biennois selon le délégué au sport de la ville de Bienne, Joachim Staub.
Oui, alors c'est clair que c'est un événement qui va inscrire encore davantage la ville de Bienne en tant que ville sportive. En tant que délégué au sport, de toute façon, on en est convaincu. Mais c'est vrai que de voir autant de place sur la place médiatique, de voir autant de place accordée au sport, c'est un réel plaisir en tant que délégué.
Alors Bienne, hein, c'est une ville de hockey, ça on l'entend toujours, hein, beaucoup le disent. Pas vraiment une ville de foot. Comment vous jugez ces dires? Vous êtes d'accord avec ça?
C'est une ville de hockey comme c'est une ville de foot, comme c'est une ville de basket. Bienne, c'est une ville qui compte 160 clubs de 40 disciplines différentes. On a parlé énormément de l'EHC Bienne, on a parlé après des juniors de l'EHC Bienne. Maintenant, on parle du foot du FC Bienne. Mais c'est aussi un club de basket, par exemple, qui fait ses premiers play-offs de première ligue depuis des années. C'est un club de inline hockey qui évolue en Ligue B. C'est 2 clubs de volley, masculin et féminin, qui sont très performants aussi. C'est un club de handball qui a aussi fait une super saison. Je ne peux pas parler d'une ville de hockey ou d'une ville de foot. En tant que délégué au sport, encore une fois, je salue le fait que c'est une ville sportive qui est montrée là.
Cette demi-finale de Coupe de Suisse entre le FC Bienne et Young Boys est à vivre en direct sur RJB demain dès 20h. Ce match sera commenté par Nicolas Meusy, accompagné de notre consultant Bertrand Chauffat, alors que Jérémy Pignard, lui, recueillera les réactions au bord de la pelouse. Le reste de l'actualité sportive, elle, ce sera dans la page sport en fin d'édition. Ça fait maintenant un quart de siècle. Kix Project propose un espace créatif aux jeunes biennois pendant 25 ans. Ce centre culturel de jeunesse a cherché à créer une véritable communauté. Aujourd'hui, ce sont 130 jeunes adultes qui se rendent au chemin de la Cour 62 pour danser, grimper, peindre, faire du skate ou encore de la musique. Au départ, le Kix Project représentait pourtant plutôt un combat politique pour que la scène hip-hop dispose de son propre espace, à l'image de la coupole pour le style alternatif. Un activisme qui s'est depuis estompé, d'après Manuel Stocker, directeur d'exploitation du Centre culturel de jeunesse.
Si c'était vraiment un projet assez politique avant, en tout cas maintenant, c'est plus vraiment comme ça. Les jeunes dans la maison parlent plus vraiment de la politique, même pas de la politique globale. Je trouve ça assez intéressant. Moi, je vois ça dans le quotidien, que la politique ne joue pas de rôle ici, dans cette maison.
Du coup, qu'est-ce qui relie ces gens ici? Qu'est-ce qui fait qu'ils continuent à venir de génération en génération?
Ils ont un réseau créatif ici, donc c'est ça qui est important, ou sportif. Je les comprends parce que le monde est un peu fou. Hein, on voit ça chaque jour autour. Et ici, on a un safe space. On a créé un safe space. Je crois qu'ils apprécient ça beaucoup, les jeunes. Ils viennent ici pour faire leur truc, c'est ça.
Des propos recueillis par Estelle Herman. Le Kix Project prévoit cette année un programme spécial jubilé. Le centre culturel de jeunesse, présent au chemin de la Cour 62, mise sur des événements au centre-ville cette fois. Une manière de se rendre plus visible et accessible pour la population. Un conducteur mineur coupable d'un délit de chauffard à Bienne, un jeune homme de 16 ans, a été flashé au volant d'une voiture à 84 km/h dans une zone limitée à 30 dans le quartier du Petit Marais. La police cantonale bernoise indique que le chauffard a été identifié et interpellé. Il devra répondre de ses actes devant la justice. C'est un parti d'extrême droite, tout récent, mais qui tente déjà de se faire une place dans le paysage politique régional. Le Rassemblement Roman Patriote, fondé en mars 2024, a présenté deux candidats aux élections préfectorales, l'un à Bienne et l'autre dans le Jura bernois. Les révélations du Courrier, reprises dans le journal du Jura d'hier, ont mis en évidence des échanges de messages choquants sur le groupe WhatsApp du parti entre racisme, antisémitisme, misogynie ou appel à la violence. Des propos qui, de par leur virulence, pourraient avoir des répercussions légales, comme l'explique Louis Villadan, journaliste au Courrier.
Alors ça tombe parfaitement sous le coup de l'article 261 bis du Code pénal, hein, qu'on connaît, qui condamne tout discours propageant une idéologie qui vise à rabaisser, à dénigrer une personne ou un groupe de personnes en raison de, on va dire, leur appartenance raciale, ethnique, religieuse, même l'orientation sexuelle. Donc là où c'est plus compliqué, par contre, c'est que la répression de cette infraction, elle suppose que les propos ils aient été commis publiquement. À ma connaissance, il n'y a pas de plainte qui a été déposée contre ce groupe, mais s'il y en a, on va dire que la question sera de savoir si ils ont un caractère public du fait du nombre de participants, peut-être puis leur proximité, leur relation de confiance. Dans le cadre de mon article, j'avais contacté un prof de droit de l'Uni de Genève qui m'a rappelé qu'en 2004, le tribunal fédéral il avait condamné des propos haineux qui avait été tenu devant 50 personnes lors d'une réunion privée à la montagne. Mais l'argument, ça avait été de dire que les personnes, elles ne se connaissaient pas entre elles, ou peu. Donc voilà, ce sera au juge de trancher dans tous les cas, hein, si jamais il devait y avoir une procédure pénale.
L'un des membres auteurs de messages dans le groupe WhatsApp du Rassemblement Roman Patriote n'est autre que le candidat à la préfecture de Bienne, Loïc Besançon, qui s'est d'ailleurs fendu d'un communiqué aujourd'hui, fait son mea culpa, Olivier Zano.
Oui, le jeune homme reconnaît avoir tenu des propos pouvant être qualifiés de choquants et inadmissibles dans ce groupe. Un groupe non officiel, privé, il le précise, un groupe où, je cite, « un humour noir très poussé est pratiqué selon lui », avouant aussi que cette excuse n'est pas vraiment recevable. Loïc Besançon assure que le RRP ne prône pas la discrimination basée sur l'ethnie, qu'il n'y a jamais eu de recours à la violence physique. Reste que les propos mis au jour par cet article du Courrier sont extrêmement violents. Il concède une erreur de sa part et partage ses regrets sincères. Le candidat à la préfecture de Bienne a dit encore qu'il a voulu se retirer de l'élection, mais qu'il ne peut pas faire machine arrière. Il promet déjà qu'il cessera toute activité politique une fois cette échéance passée et qu'il quittera définitivement le Rassemblement Roman Patriote.
Merci Olivier. Faire voyager des gravures sur bois depuis l'Asie jusqu'à Saint-Imier, c'est le projet du collectif Espace Noir qui aimerait faire découvrir des artistes engagés provenant d'une cinquantaine de collectifs en Asie de l'Est et du Sud-Est dans leur prochaine exposition Carving Dissensus. Ils font partie de l'Inter-Asian Woodcut Mapping Group et créent des impressions xylographiques, un art qui fait écho à l'histoire régionale selon Michel Guiziguer, membre du comité d'exposition d'Espace Noir.
La xylogravure, donc c'est une technique d'impression qui est assez ancienne. En fait, on part d'une planche de bois qui est gravée et qui est ensuite enduite d'encre. Et puis ça donne des impressions. Pourquoi ? C'est en lien avec la région, parce que de tout temps, ça a souvent été utilisé dans les milieux militants. Et puis, savoir que le vallon de Saint-Imier, c'est un peu le berceau de l'anarchisme, mais on peut faire pas mal de liens avec les luttes sociales, que ce soit des horlogers et puis autres ouvriers. Donc, il y a une longue tradition syndicaliste aussi dans la région.
Quel est le lien avec Espace Noir et ses différents collectifs ?
À Espace Noir, on a toujours eu une tradition d'autogestion et assez militante autour des causes sociales. Puis donc on partage vraiment ces valeurs de solidarité avec ces différents collectifs en Asie. Donc on est super contents de pouvoir les faire venir. Et puis par rapport à quoi va ressembler l'exposition, ce sera à peu près 150 œuvres réparties entre les collectifs, principalement du papier, des œuvres en A4, A3, et puis aussi des grands formats. On a une super idée dans le hall d'Espace Noir, pour ceux qui connaissent, d'accrocher des tissus, des bâches, pour les laisser pendre dans le hall avec des xylogravures en grand format.
Des propos recueillis par Colline Grasset. Espace Noir a lancé une cagnotte pour financer la venue de 8 artistes. Ils ont déjà réuni assez d'argent pour produire l'exposition qui aura lieu du 11 octobre au 19 décembre. Mais la cagnotte est toujours ouverte. L'Entraide protestante lance un service spécialisé dans les visas humanitaires. L'EPER a développé son offre d'information, de conseils et de soutien juridique dans ce domaine. Les conditions pour obtenir un visa humanitaire sont strictes. Il faut que la vie ou l'intégrité physique de la personne soit directement, sérieusement et concrètement menacée et que la personne ait un lien étroit et actuel avec la Suisse. En 2022, les autorités n'ont délivré que 142 visas humanitaires. Chloé Ofodou, responsable du service d'aide juridique aux exilés, explique pourquoi l'EPER a décidé d'ouvrir ce service spécialisé.
L'EPER se bat depuis plusieurs années pour des voies légales sûres pour pouvoir entrer en Suisse, donc éviter les réseaux de passeurs. Et la seule possibilité actuelle juridique de pouvoir rentrer en Suisse de manière légale, c'est le visa humanitaire, à l'exception des situations où on rentrerait dans les conditions du regroupement familial. Une autre raison, c'est qu'il n'existe plus de conseil bas seuil, c'est-à-dire sans qu'on ait besoin de débourser beaucoup d'argent pour avoir des informations sur cette question. Il y avait un service de la Croix-Rouge qui a été fermée. On se rend compte au niveau de la pratique qu'il y a une très très forte demande et que beaucoup de personnes prennent beaucoup de risques et dépensent beaucoup beaucoup d'argent pour essayer de faire venir des personnes via un visa humanitaire, mais qui ne remplissent pas les conditions. Et l'expérience nous a montré aussi qu'il y a quand même des succès et que les chances de succès sont beaucoup plus hautes avec un accompagnement professionnel.
Les personnes qui obtiennent un visa humanitaire peuvent entrer légalement en Suisse. Elles doivent ensuite y déposer une demande d'asile.
RGB 12h28, Anthony Montandon, il n'y a pas que la Coupe de Suisse de football en sport aujourd'hui.
RGB Sport.
Et vous le dites bien, parce qu'outre la demi-finale du FCBN contre Young Boys, qui, je vous le rappelle, sera à suivre en direct demain sur RGB dès 20h, on parle aussi de hockey sur glace avec Zurich, qui s'est adjugé un 11e titre de champion de Suisse, le 2e consécutif. Les Lions ont gagné 3-2 à Lausanne hier soir et remportent cette finale de National League 4-1. Ils n'ont pas été supérieurs aux Vaudois lors de ce 5e acte, mais ils ont su faire pencher la balance en leur faveur dans les instants cruciaux. L'équipe de Marco Bayer a profité d'un surnombre adverse pour inscrire le but du sacre en powerplay à la 53e minute. Après avoir déjà remporté la Ligue des Champions en février, l'attaquant de Zurich, Sven Andrighetto, savoure cette victoire.
Je suis juste très content. On profite de l'instant avec les coéquipiers. On travaille tellement dur pendant toute la saison et on est maintenant récompensé en ayant défendu notre titre. C'est vraiment bien. On a été les deux meilleures équipes ces deux dernières saisons. Ils ont aussi eu une belle année. On finit son premier du classement. Donc on est très content de les avoir battus.
Lausanne s'est battue jusqu'au bout, mais le premier de la saison régulière bute comme l'année passée sur la dernière marche et le même adversaire. La réaction du directeur sportif du LHC, John Fust.
Oui, déception. On croyait qu'on pouvait gagner ce soir. On a bien joué. C'est dur pour tout le travail qu'on a fait. Mais je sais, demain, la fierté va être là. Deux fois vice-champion, une fois première place du classement, ça montre que l'équipe fait du bon travail. Et puis, il y a une culture qui a été créée, qui est réelle et qui, avec un peu de chance et beaucoup plus de travail, une fois, ça va être nous qui va lever la coupe.
Des propos recueillis par Alessia Meroula de LFM. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à l'antenne avec l'actualité, c'est dans le Flash de 13h. Très bel après-midi.
RJB Sport.